Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le mardi 28 mars. Je suis très contente de vous accueillir dans cette émission dédiée à l'actualité mayonnaise au sens large qui a lieu donc du lundi au vendredi à 12h15 sur l'autre radio. Et aujourd'hui, vous le savez, on va faire le point sur les journées de la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec plusieurs manifestations. C'est la première fois qu'il y en aura trois dans le département aujourd'hui, sur une même journée. On va en parler un petit peu plus en détail. On va également parler du métier de maître nageur qui n'attire plus, ou en tout cas plus assez. Les besoins sont très importants. Et justement, le directeur de la piscine Azuréo, Amélie Dumaine, a souhaité ouvrir ses portes à l'occasion du printemps des métiers pour justement montrer les coulisses de la piscine et à quoi correspond finalement le quotidien d'un maître nageur. On va également parler du festival du premier roman qui arrive à Laval très vite puisqu'il commence ce jeudi et vendredi pour les scolaires et les professionnels, mais surtout la grande journée ouverte au grand public à ne pas manquer, ce sera ce samedi, non pas place de la Trémoille mais au Théâtre de Laval. On va voir pourquoi et on va voir surtout, on va décrypter ensemble le programme de cette 31e édition du festival. Et puis comme chaque mardi, évidemment, rendez-vous attendu, j'imagine, en tout cas apprécié aussi, on l'espère, c'est la chronique de Donatien qui va nous parler de serpents à Laval. Voilà, je vous en dis pas plus, il va nous expliquer ça dans une deuxième partie d'émission. Mais on va commencer par ce rapide tour de l'actualité en Mayenne avec cette dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. À Laval, le cortège s'était lancé depuis un petit quart d'heure. Le rendez-vous avait été fixé devant la CPAM boulevard Montmorency à 11h ce matin. Et deux autres manifestations sont prévues à 16h30 cet après-midi sur la place Paul Doumer à Château-Gontier et à Mayenne, place Georges-Clair. Clémenceau. Ce matin, une opération escargot avait été aussi lancée à partir de 9h30 entre Évron et Laval par certains manifestants. Et un peu plus tôt, des barrages filtrants avaient été également organisés au rond-point du Lidl et au rond-point route de Sillé-le-Guillaume. À Laval, donc, le cortège déjà parti va passer par l'avenue de Chanzy, le boulevard Félix-Gratte, la rue de Paris, avant de terminer la manifestation devant la préfecture. Et selon de premières estimations, on vous en dira un petit peu plus demain, mais il y aurait plus d'un millier de manifestants à défiler en ce moment même. Et puis une autre manifestation, un autre combat, celui des chauffeurs routiers qui repassent à l'action aujourd'hui, alors même que ça n'a pas forcément de rapport avec la réforme des retraites, mais ces chauffeurs en colère dénoncent l'impact de l'envolée des prix pour la profession, l'impact du prix du gasoil, de l'AdBlue, des pneumatiques, de l'entretien, mais aussi des péages, sans oublier la concurrence déloyale des transporteurs étrangers. Et donc il y a un convoi qui est réuni au péage de la Gravelle sur la 81 entre Rennes et Le Mans depuis 11h ce matin avec un barrage filtrant mis en place et notamment ces chauffeurs manifestants bloqueront le passage de tous les camions et filtreront celui des voitures. Parmi leurs revendications, ils demandent la reconduction de primes, un gel des tarifs de péage et de plus fortes amendes pour les sociétés qui pratiquent le cabotage illégal. Tout autre sujet maintenant, vous l'avez peut-être entendu cette information l'été dernier, il a été compliqué de trouver des maîtres nageurs pour assurer les surveillances dans les piscines, mais aussi autour des plans d'eau en Mayenne et ailleurs. La situation s'est un peu améliorée aujourd'hui dans le département et partout en France, grâce aux formations mises en place, mais les besoins sont toujours présents et c'est aussi pour cette raison que le directeur de la piscine Azuréo, Amélie Dumaine, a souhaité ouvrir ses portes il y a quelques jours dans le cadre du printemps des métiers organisé par le pays de Mélégré. Il y a donc plus d'une dizaine d'entreprises qui ouvrent leurs portes au grand public. C'est l'occasion de découvrir les coulisses mais aussi de voir quels métiers recrutent. Là c'est le cas pour le métier de maître nageur. Et justement, c'était tout l'intérêt de pouvoir le présenter à quelques personnes qui étaient présentes pour cette visite il y a une dizaine de jours.
Actuellement, il y a de la synchro, apprentissage de la natation synchronisée. Et tout l'après-midi, il y a des cours pour les plus grands ou plus petits, hein, pour les enfants. Et le soir, il y a des cours adultes, il y a de l'aquagym, il y a de l'aquabike, il y a du circuit très...
Alors Yannick Buron, responsable de la piscine L'Azuréo à Mélédumène. Je suis en poste sur L'Azuréo depuis 2016, après avoir passé un an maître nageur. Je suis responsable de la piscine. Pourquoi j'étais intéressé? Donc, déjà parce que bon, on fait la promotion de notre métier, parce qu'il est en perte de vitesse en termes de recrutement, notamment sur la partie maître nageur et surveillant de baignade, surveillant de piscine. On manque toujours cruellement de maître nageur sur le secteur. La Mayenne est sinistrée, mais ça ne dépend pas que de la Mayenne, hein, c'est national. C'était très compliqué l'année dernière, donc il y a des formations qui ont été mises en place pour les BNCSA, donc on en passe de régler à peu près le problème, hein, même s'il est loin d'être réglé, on avance. Et du coup, là, c'est plutôt sur la partie maître-nageur où il va falloir qu'on trouve des solutions. Je pense qu'un problème de formation qui fait peur par le coût, par les compétences qu'on demande aux gens pour devenir maître-nageur, on a l'impression que c'est un diplôme très compliqué. Donc moi, là, je suis là pour répondre à toutes ces questions. J'ai des exemples très concrets par rapport à des jeunes qui ne se voyaient pas maître-nageur et en discutant, se sont préparés, aussi bien physiquement que mentalement, que pédagogiquement avec nous et qui ont fait des apprentissages et au final n'avaient pas forcément au départ la vocation d'être maître-nageur et qui sont maître-nageur et notamment, et en plus, bon maître-nageur. Il y a le déplacement géographique, les formations qui, à une époque, se passaient assez loin, surtout en Mayenne. Hein, il n'y avait pas beaucoup de formations dans le secteur. Hein, on n'y en avait même pas du tout en Mayenne à une époque. Là, on commence à avoir des formations sur Laval. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir passé 10 ans de natation, avoir passé de nageur pour devenir maître-nageur. Sur le métier, c'est un métier varié. C'est-à-dire que ce n'est plus le maître-nageur sur sa chaise qui regarde les gens se baigner. On fait de l'aquagym, on fait de l'aquabike, on fait des activités fitness. On fait des cours de natation, bien évidemment, en partant du bébé nageur jusqu'au troisième âge. Donc, c'est intergénérationnel. Donc, ça aussi, c'est enrichissant de travailler avec les tout petits, de travailler avec les plus âgés, en passant par les gens qui ont peur de l'eau et les gens qui savent très bien nager. Hein. Moi, je fais du coaching. Donc, on a des gens qui se préparent pour faire du triathlon. Donc, on a tous les publics. Ça draine un public énorme. Derrière ça, bon, évidemment, il y a de la surveillance. Il y a le côté surveillance, secourisme, bon, on ne peut pas passer à côté. À L'Azuréo, l'équipe est au complet. Je sais que par expérience, les maîtres nageurs, en plus particulièrement, circulent beaucoup. Hein. Je sais que les piscines aux alentours sont toutes ou presque en recherche de personnel. C'est un vrai problème. Ouais. Il faut que tous les acteurs de ce milieu se mobilisent pour qu'on en profite tous derrière. Hein. Que les jeunes trouvent des boulots où ils puissent s'épanouir, gagner bien leur vie et que le public derrière puisse venir à la piscine en toute sécurité et puis passer un bon moment. Voilà, ça vaut le coup.
Tant que le métier va rester comme il est, l'avantage c'est voilà, on va pouvoir faire reposer sa voix pendant qu'on est là sur mer.
Et sachez que le département de la Mayenne travaille sur une plateforme internet, une plateforme en ligne où on pourrait trouver toutes les informations pour les formations justement pour devenir maître nageur, mais aussi les aides financières et toutes les infos pratiques. Et puis demain, mercredi 29 mars, dernier jour pour profiter du printemps des métiers sur le pays de Mélégré, avec plusieurs visites qui restent accessibles, notamment celle à 10h à la Marpa de Val-du-Maine, à 14h30 au Crédit Agricole de Mélédumène et toujours à Mélédumène au même horaire. La menuiserie Gito ouvre elle aussi ses portes. Les visites sont gratuites mais sur inscription au 02 43 64 37 44 ou bien par mail à l'adresse a.portolo@paysmelegre.fr. On va faire une petite pause en musique avec Alice et moi, on écoute Les gens sont cool, avant de parler de cette 31e édition du Festival du Premier Roman, ce sera à Laval ce week-end.
Surprise, si t'attends demain, pas besoin de faire tes valises.
C'était Alice et moi, les gens sont cool dans l'agité du local sur l'autre radio. Alors selon l'humeur du moment, vous pouvez voir tout le côté ironique de cette chanson ou pourquoi pas aller vous dire que c'est du premier degré et on y croit. En tout cas, c'est le moment de passer eh bien, à l'interview de ce mardi consacrée à la 31e édition du festival du premier roman à Laval. Ça commence ce jeudi et ça se termine ce samedi. Ce samedi qui sera le temps fort pour cette grande journée ouverte à tous, ouverte au grand public. Pas d'animation cette année le dimanche et puis un déménagement du chapiteau de la place de la Trémoille au théâtre de Laval finalement, mais toujours un programme très dense, vous allez l'entendre, avec notamment une ouverture du festival par Brigitte Giraud. Brigitte Giraud qui avait été récompensée par le prix Goncourt en 2022 pour son livre Vivre vite. Évidemment, on est au festival du premier roman, donc là elle présentera un autre ouvrage. Évidemment, il y a plein de tables rondes et de cafés littéraires aussi à découvrir lors de cette 31e édition.
Anne-Sophie Denoux, je suis coordinatrice de projet et médiatrice à l'association Lecture en Tête.
Donc l'association Lecture en Tête qui organise d'ici quelques jours la 31e édition du Festival du Premier Roman. Une édition où la partie visible, accessible au grand public, ne sera pas place de la Trémoille comme ça avait été le cas l'année dernière et historiquement, on va dire, depuis déjà quelques années, mais au Théâtre de Laval. Pourquoi avoir fait ce choix ?
Alors, ce n'est pas un choix que nous avons fait, ça a été plutôt. C'est un choix subi. Voilà, l'augmentation des coûts, pas artistiques, mais des coûts d'organisation, ainsi que le manque de soutien de certains partenaires, hein, j'insiste, c'est certains partenaires, ne nous ont pas permis en 2023 d'avoir une édition sur 4 jours. Donc on a été obligé de l'amputer d'une journée et on a réduit aussi la voilure au niveau du nombre d'invités. Donc au lieu d'avoir une quarantaine d'invités, on en a une bonne vingtaine. Et comme on ne pouvait pas installer le chapiteau, place de la Trémoille, le théâtre nous a accueillis pour cette unique journée ouverte au grand public, donc le samedi 1er avril.
Ce sera effectivement le samedi 1er avril, mais le festival commence dès le jeudi 30 mars, avec justement 2 journées à la fois pour les scolaires et puis pour les professionnels aussi, je crois, même si c'est 2 choses bien distinctes. Qu'est-ce que pourront faire, justement, qu'auront la chance de faire les lycéens et collégiens lors de ces rencontres ?
Alors, on accueille 500 collégiens et lycéens de la région Pays de la Loire. Donc les jeudis 30 et vendredi 31 mars. Alors pendant ces 2 journées, les jeunes pourront rencontrer les auteurs qu'ils ont lus en amont du festival et aussi participer à des ateliers d'écriture animés par des écrivains et des ateliers de mise en voix et en espace animés par des comédiennes. Donc c'est vraiment une journée d'immersion dans la littérature, l'écriture, le texte, la lecture, voilà, pour ces jeunes. Et effectivement, le vendredi 31 mars, on a également une journée pro intitulé « Qu'est-ce que faire écrire ?» C'est prévu aux archives départementales, mais c'est complet. On a déjà, voilà, c'est bouclé depuis la semaine dernière. Mais voilà, ça va être une journée à la fois pour les professionnels du milieu du livre ou du milieu culturel, mais aussi des bénévoles ou des lecteurs en général.
Effectivement, on a ces deux premières journées. Et puis, vraiment, l'inauguration, on va dire, pour le grand public, ce sera donc le vendredi 31 mars, avec un nom qui ne m'est pas inconnu, même à moi qui n'y connais pas grand-chose en littérature, Brigitte Giraud, qui sera présente au Festival du Premier Roman. Eh oui.
Alors oui, nous accueillerons Brigitte Giraud, effectivement, pour son premier roman, mais premier roman ado. Elle est invitée pour rencontrer des jeunes autour de ce premier roman « Portée disparue ». Et puis c'était l'occasion aussi de l'entendre sur l'ensemble de son œuvre, dont « Vivre vite », son dernier livre pour lequel elle a obtenu le prix Goncourt 2022. Et puis elle sera interviewée par Denis Michelis, qui est un habitué, un écrivain habitué du festival de Lecture en tête, et c'est un fidèle, qui l'interviewera parce que son premier roman, donc le premier roman de Denis Michelis, a été publié par Brigitte Giraud. Donc il y a un côté filiation, voilà, c'est la famille qui se réunit voilà, pour cette inauguration.
Donc ça, on le rappelle, ce sera le vendredi 31 mars dans la soirée. Et après, vraiment, le cœur du festival pour le grand public, ce sera samedi. Il y a beaucoup, beaucoup de rencontres, donc on ne va pas pouvoir parler de tout. Mais on parlait des habitués du festival juste avant. Sorge Chalandon en fait partie. Et il sera là notamment pour une rencontre croisée autour des souvenirs d'enfance et aussi souvenirs mémoriels. Alors, c'est peut-être pas l'intitulé exact de la rencontre, mais si vous pouvez nous expliquer un petit peu à quoi ça attendre.
Alors c'est une table ronde autour de l'héritage familial, ce qu'on transmet, comment on se construit avec son héritage, ce que nous transmettent nos parents et nos grands-parents. Donc Sorge Chalandon sera en plateau avec Hélène Weisbord, c'est une écrivaine qui a 86 ans, née de parents juifs polonais communistes qui ont été déportés pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, elle a été cachée en Mayenne, alors qu'elle n'est pas du tout de la région. Et elle a passé son enfance du côté d'Evron. Donc elle a un lien fort avec la Mayenne. Nous, c'était l'occasion de l'accueillir autour de ses livres. Elle parle beaucoup de son enfance dans chacun de ses romans. Et puis, Hélène Weisbord est présidente honoraire de la Maison des enfants d'Izieux, dont parle Sorge Chalandon dans son dernier livre « Enfants de salauds ». Il parle de cette rafle, donc de toute cette maison d'enfants qui a été envoyée en camp de concentration. Et donc, voilà, on trouvait que c'était pertinent de les mettre ensemble sur une rencontre. Et ce sera en partenariat avec le Mémorial des déportés de la Mayenne qui fête cette année ses 10 ans.
Donc ça, c'est l'une de ces tables rondes. À chaque fois, d'ailleurs, vous avez réussi à trouver des liens entre chaque auteur, même si leurs œuvres sont différentes. À chaque fois, il y avait certains, c'est plus l'intime, d'autres, là, on l'a vu vraiment sur les souvenirs d'enfance. À chaque fois, ce lien, il a été facile à trouver.
Oui, alors on commence toujours l'organisation, enfin la programmation du festival. On l'imagine toujours à partir des primo-romanciers et primo-romancières sélectionnés. Donc cette année, sur les 18 premiers romans sélectionnés, il y a 14 auteurs qui viennent au festival. Et après, c'est comment les lier sur des thématiques. Alors oui, en général, c'est assez simple. Parfois, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais voilà, on arrive toujours à les lier et à les interpeller sur des thématiques bien précises. Là, cette année, c'est vraiment sur l'intime, beaucoup sur l'intime, justement.
Justement, festival du premier roman, donc de la littérature francophone au sens large, pas forcément que française, on l'a vu. Et il y a entre autres une table ronde autour de la littérature haïtienne, en particulier avec un focus et deux auteurs qui seront là, qui seront présents.
Oui, on accueillera à nouveau Mackenzie Orcel, qui est un habitué aussi du festival et de toutes nos activités ici à Lecture en tête. Mackenzie est une voix montante de la littérature haïtienne. et finaliste du prix Goncourt 2022 avec une somme humaine. Il a fini parmi les quatre finalistes. Hein. Bon, c'est Brigitte Giraud qui l'a reçu. Et il sera en table ronde avec Némi Pierre Dahomey, qui est un jeune auteur haïtien. Il a écrit deux romans et ce sera notre prochain auteur en résidence d'écriture en Mayenne sur la saison 2023-2024.
Très bien, ça me fait une transition parfaite avec ma question suivante, puisqu'il y a un auteur qui est pour le coup déjà lui en résidence en ce moment, qui sera aussi à l'honneur lors de ce festival du premier roman, qui s'appelle donc Karim Khatan.
Oui, depuis le 6 mars, on accueille Karim Khatan, qui est un auteur palestinien, francophone, en résidence d'écriture en Mayenne pour l'écriture de son deuxième roman. On l'avait accueilli l'année dernière au festival pour son premier roman, Le Palais des Deux Collines, qui avait reçu le prix des cinq continents. Et là, il est en résidence jusqu'en juin à Laval. Il déambule en Mayenne pour plusieurs animations de cercles de lecture ou d'ateliers d'écriture, en café littéraire aussi. Et donc, il sera présent aussi au festival pour représenter la littérature contemporaine francophone, puisque, bien que palestinien, ses romans, il les écrit en français.
Et d'ailleurs, on ne l'a pas encore évoqué, mais c'est aussi le cas lors de certaines rencontres. Alors, pas forcément ce samedi 1er avril, mais peut-être un peu plus jeudi et vendredi, puisque l'idée, forcément, c'est d'ouvrir la littérature au plus grand nombre et donc à un public qui n'a peut-être pas forcément l'habitude de lire beaucoup, ou d'ouvrir, ou même tout simplement même de rencontrer des auteurs et des autrices. Ça, c'est aussi ce que vous proposerez jeudi et vendredi auprès de certains publics.
Ça, c'est plutôt le week-end. C'est le samedi. Il est vrai qu'avec les scolaires, il y a tout un travail d'accompagnement par leurs enseignants. Donc la lecture en général de deux premiers romans de la sélection, parfois un travail en classe et puis la rencontre avec l'auteur au festival, enfin pendant les rencontres scolaires du festival. Mais on a aussi des ateliers lecture, donc c'est des ateliers à destination du public empêché éloigné de la lecture. Donc ce sont des publics que l'on retrouve dans des structures à caractère social, c'est le cas avec la maison d'arrêt, on a aussi des maisons de quartier, EHPAD, Habitat Jeune, ESAT, Hôpital de Jour. Et on a à peu près 10 ateliers qui ont démarré en décembre. Donc c'est la lecture à voix haute collectivement d'un premier roman sur une dizaine de séances. Et l'objectif, c'est de la pépite, hein, la petite cerise sur le gâteau, c'est de rencontrer l'auteur au moment du festival. Donc il y a tous ces ateliers, toutes ces structures qui vont venir au festival le samedi 1er avril rencontrer leur auteur.
Donc c'est là qu'il faudra être pour tout voir. Il y aura aussi des moments privilégiés, certains cafés littéraires, certaines séances de dédicaces qui seront proposées en plus des tables rondes dont on a parlé.
Oui, après chaque rencontre, café littéraire ou table ronde, les auteurs sont en dédicace. Et puis, il y aura aussi des lectures. Il y a un espace café, il y a un espace librairie, il y a l'exposition autour des premiers romans, donc, qui réunit 22 artistes. Donc, 22 artistes du département qui se sont emparés de cette sélection de premiers romans pour créer des œuvres uniques. Et elles seront exposées au Théâtre de Laval du 1er au 19 avril. Voilà, il y a pas mal d'animations autour de ces cafés littéraires et tables rondes. Et c'est entrée libre et gratuite, il n'y a pas besoin de réserver, il n'y a pas de billetterie, voilà, venez comme vous êtes.
Vraiment aucune excuse pour ne pas venir ce samedi 1er avril. Mais est-ce que la fréquentation de cette édition, de cette 31e édition, elle peut aussi jouer sur la suite? Parce que vous l'avez dit au début, vous avez été contraint de changer de lieu. Est-ce que là, vous vous dites, c'est vrai que si on n'a pas suffisamment de personnes, ça peut aussi mettre en péril une prochaine édition de l'événement ou pas, et tout est encore un peu en suspens?
Alors, en tout cas, ce que nous savons aujourd'hui, c'est que nous allons perdre les lecteurs du dimanche, ceux qui venaient le dimanche, qui, pour certains, travaillent le samedi ou qui ne peuvent être présents le samedi en général. Donc, voilà, on aura, à mon avis, moins de fréquentation. On ne sait pas du tout comment le public va réagir. Nous verrons. En tout cas, s'il n'y a pas assez de public le samedi, ça montre bien que voilà, il faut aussi un dimanche. C'est important. Peut-être aussi un lieu plus ouvert, puisque entrer dans un théâtre, c'est pas la même chose que d'entrer sous un chapiteau. ce que nous on défendait, le chapiteau, parce que c'est accessible et visible, plus qu'un théâtre qui peut faire peur à certaines personnes. S'il y a trop de monde le samedi, voilà, on verra aussi que le théâtre, un lieu fermé comme ça, n'est pas adapté pour un festival comme celui-là. Donc non, on va voir, on espère juste que le public va suivre, au moins pour les auteurs, que tous les auteurs qui sont invités puissent rencontrer leurs lecteurs, leur public, et qu'il y ait toujours des échanges aussi riches et fructueux comme les années précédentes. C'est surtout ça, et puis après on fera un bilan pour l'édition 2024, mais on n'abandonne pas une édition en 2024 sur 4 jours et un retour sous chapiteau.
À suivre donc. En tout cas, l'entrée est libre et gratuite tout ce samedi de 9h45 à 20h au Théâtre de Laval. Ce vendredi, pour l'inauguration à l'avant-scène, c'est à partir de 19h. Et là, vu la plus petite jauge, c'est sur réservation au 06 45 60 59 94. La programmation du festival est disponible en ligne sur festivalpremierroman.fr. Programmation complète, hein, puisque vous l'avez compris, on n'a pas pu tout dire. Et puis ne manquez pas, si vous n'avez pas la chance de pouvoir y aller en vrai, notre émission en direct du festival. Ce sera ce samedi de 14h à 16h, et oui, 2h en direct du festival, avec des auteurs, des bénévoles de lecture en tête, l'association organisatrice, et plein de petites surprises donc pour cette émission samedi après-midi. Alors là, on va pas parler littérature, on va plutôt laisser s'exprimer la musique, et en l'occurrence les Black Keys avec Low High.
Down at the bar like a star in the Hollywood rain.
C'était les Black Keys avec leur titre énergique Low High. C'est ce qu'on vient d'écouter évidemment dans l'agité du local sur l'autre radio. Et on retrouve rendez-vous régulier dans cette émission chaque mardi. C'est Donatien. Oui, alors ça ne rime absolument pas. Mais ça ne va pas nous empêcher de retrouver aujourd'hui notre chroniqueur pour parler de Serpent à Laval. Et oui, il vous en dit plus.
Coiffé de son feutre à la Indiana Jones, aujourd'hui Donatien se veut explorateur. L'aventure commence par la navette express pour se rendre de Château-Gontier à Laval, chef-lieu du département de la Mayenne. Le car dépose le professeur, place du 11 novembre, autrement connue sous le nom de place du Jet d'eau. À l'occasion de gros travaux d'aménagement, les fouilles ont permis de retrouver des objets de la vie quotidienne enterrés là depuis des siècles. Ressuscite sous la truelle et le pinceau des archéologues un couteau de métal et de jet, des dés, des carreaux de terre cuite, l'emplacement d'une église. Donatien se penche et ferme les yeux un instant, comme pour entendre du passé monter la voix d'un chant grégorien. Un coup de klaxon ramène notre héros à la réalité et au XXIe siècle. Donatien emprunte la rue du Général de Gaulle, puis la rue du Britet, pour découvrir le 40, ce temple de la musique où on lui a signalé, paraît-il, la présence d'un serpent. Toujours coiffé de son traveleur, imperturbable et curieux, Donatien pénètre dans le bâtiment aussi énigmatique qu'impressionnant. Loin d'être intimidé, mais se méfiant quand même, il avance avec prudence, préférant l'escalier à l'ascenseur. Dans les allées de cette jungle de couloirs, de recoins, de rampes et balustrades, Donatien croise de jeunes guitaristes, violonistes, saxophonistes qui subrepticement disparaissent derrière les portes d'où s'échappent des accords et des arpèges de piano. En ces lieux, personne ne semble craindre aucun danger. Persévérant, Donatien pense toucher son but quand, sur la porte grande ouverte d'un confortable auditorium, il déchiffre une pancarte. Audition Serpent, deuxième et troisième année. C'était donc cela, le fameux serpent, un instrument de musique dont la forme rappelle les enroulements du reptile, mais qui n'a rien de dangereux ni de venimeux. Bien au contraire, sa sonorité apaisante évoque le timbre du chant grégorien. Alors, Indiana Jones soulève le bord de son chapeau et s'assoit un moment pour écouter les élèves du professeur Michael Gache. Empli d'harmonie, quand Donatien, en fin d'après-midi, traverse la place du Jet d'eau pour reprendre la navette, il s'attarde au niveau des fouilles archéologiques et, prêtant l'oreille, écoute un moment, monté des ruines de l'église, le chant du serpent. The other.
C'était une première en tout cas, je viens de découvrir que donc le serpent était un instrument de musique. Et on vient d'écouter Sonate pour serpent de Michel Corrette. Merci Donatien pour cette nouvelle chronique et on se retrouve évidemment mardi prochain. Puisque c'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour aujourd'hui, mais restez bien à l'écoute de l'autre radio, puisque ce soir à 19h, ce sera la première d'O4ring, une émission autour des musiques actuelles. Et on restera en musique, puisqu'à 21h, l'émission de rap Frères de Chaussures sera de la partie. Et nous, on revient demain et je vous souhaite une très belle journée.